J'avais mon propre plan pour les années s'étendant entre août 1960 et avril 1963. Je garderais Oswald à l'œil quand il rentrerait de Russie, mais je n'interférerais pas. Je ne pouvais pas me le permettre, à cause de l'effet papillon. J'ignore s'il y a une métaphore plus absurde dans la langue anglaise que celle de chaîne d'événements. Les chaînes, autres que celles que nous avons tous appris à fabriquer avec des bandes de papier coloré à la maternelle, sont solides. On les utilise pour extraire les blocs moteurs des camions et pour entraver les bras et les jambes de détenus dangereux. Mais ça ne représentait plus la réalité telle que je la comprenais. Les événements sont précaires, croyez-moi. Ce sont des châteaux de cartes. Et en m'approchant d'Oswald, sans parler de tenter de l'empêcher de commettre un crime qu'il n'avait même pas encore conçu, je me priverais de mon seul avantage. Le papillon déploierait ses ailes, et bien sûr, le parcours d'Oswald en serait changé. Ce ne serait peut-être que d'infimes changements au début. Mais comme le dit la chanson de Bruce Springsteen, « C'est à partir de petites choses, chérie, que de grandes choses arrivent un jour. » Ce pourrait être de bons changements, qui ultimement sauveraient l'homme qui était actuellement le plus jeune sénateur du Massachusetts. Mais je n'en croyais rien, parce que le passé est tenace. En 1962, selon l'une des notes griffonnées par Hall, Kennedy se rendrait à Houston, à l'université Rice, où il prononcerait un discours dans lequel il parlerait d'aller sur la Lune. Auditorium ouvert, podium sans protection par balle, avait écrit Hall. Houston était situé à moins de 500 km de Dallas. Et si Oswald décidait de tirer sur le président là-bas? Ou supposons qu'Oswald soit exactement ce qu'il avait prétendu être, un bouc émissaire. Imaginons que je le pousse à fuir Dallas pour retourner à la Nouvelle-Orléans, et que Kennedy meure quand même, victime de quelque complot fou de la mafia ou de la CIA. Aurais-je le courage de repasser par le terrier pour tout recommencer de zéro? Sauver de nouveau la famille Dunning? Sauver de nouveau Caroline Poulain? J'avais déjà consacré près de 2 ans à cette mission. Serais-je prêt à investir 5 années supplémentaires pour un résultat tout aussi incertain? Il valait mieux ne pas avoir à le découvrir. Il valait mieux être sûr de son coup. En route vers le Texas depuis la Nouvelle-Orléans, j'avais décidé que la meilleure façon de surveiller Oswald sans me mettre dans ses jambes serait de m'installer à Dallas pendant qu'il vivrait dans la ville sœur de Fort Worth, puis d'emménager à Fort Worth quand Oswald déménagerait avec sa famille à Dallas. L'idée avait le mérite de la simplicité, mais elle ne fonctionnerait pas. Je l'ai compris dans les semaines qui ont suivi ma première rencontre avec l'immeuble de la TSBD, après avoir senti si fort que lui aussi, tel l'abîme de Nietzsche, m'observait. J'ai passé les mois d'août et septembre de cette année d'élection présidentielle à conduire ma Sunliner dans les rues de Dallas pour trouver un appartement. Même après tout ce temps, mon GPS me manquait cruellement et je devais m'arrêter souvent pour demander mon chemin. Tout semblait clocher. Au début, je pensais que c'était les appartements eux-mêmes. Puis, à mesure que je commençais à me faire une meilleure idée de la ville, j'ai compris que c'était moi. La vérité pure et simple, c'est que je n'aimais pas Dallas. Et 8 semaines d'investigation suffirent à me convaincre qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à aimer. Le Times Herald, que beaucoup d'habitants de Dallas appelaient le Slimes Herald, était un rouleau compresseur exaspérant de chauvinisme à 2 balles. Le Morning News pouvait bien céder à des envolées lyriques en décrivant comment Dallas et Houston étaient engagés dans une course vers le ciel. Les gratte-ciels dont les éditoriaux parlaient n'étaient qu'un îlot de prétentions architecturales entouré au ras du sol d'anneaux moins reluisants que j'en étais venu à désigner mentalement sous le nom de « grande culture américaine des bas-fonds ». Les journaux ignoraient totalement les quartiers de taudis où la fracture raciale commençait tout juste à se réduire un peu. Au-delà, il y avait les interminables lotissements de la classe moyenne, dont les propriétaires étaient pour la plupart des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et de Corée. Ces anciens combattants avaient des épouses qui passaient leur journée à faire reluire leur mobilier ou des poussières en pledge et à faire tourner leur lave-linge Maytag. La plupart avaient 2,5 enfants. Les adolescents tondaient les pelouses, livraient le Slimes Herald à bicyclette, lustraient la voiture familiale au Turtle Wax et écoutaient, en douce, Chuck Berry sur les radios à transistor, en faisant peut-être croire à leurs parents inquiets que le bon Chuck était blanc. Au-delà des pavillons de banlieue, avec leurs tourniquets d'arrosage sur les pelouses, s'étendaient de vastes champs plats à l'infini. Ça et là, des rampes d'irrigation étaient encore visibles sur les cultures de coton. Mais presque partout, le roi coton était mort, remplacé par des hectares de maïs et de soja à perte de vue. Les véritables productions du comté de Dallas étaient l'électronique, le textile, le boniment et l'argent noir des pétrodollars. Il n'y avait pas beaucoup de dérigues dans la région, mais quand le vent soufflait de l'ouest, où se situe le bassin permien, les villes jumelles empestaient le pétrole et le gaz naturel. Le quartier des affaires du centre-ville regorgeait de cadres tout ce qu'il y avait de plus urf, se trimballant dans l'attirail que j'en étais venu à appeler le quatre pièces Dallas. Manteau sport à carreaux, cravate étroite retenue par une pince tape à l'œil, avec diamant étincelant en son centre ou brillant faisant illusion pour cette version années 60 du bling-bling, pantalon blanc sans sa belt, pour un port sans ceinture, et bottes m'as-tu vu à couture tarabiscotée. Il travaillait dans des banques et des sociétés d'investissement. Il vendait du soja à terme, des concessions pétrolières et des propriétés à l'ouest de la ville. Des terres où rien ne poussait, sauf le datura et la soude roulante. Ils s'appelaient mutuellement « fils » en s'assénant des claques sur l'épaule avec des mains pleines de bagouses. À la ceinture, où les hommes d'affaires de 2011 clipsaient leur téléphone portable, beaucoup arboraient des armes de poing glissées dans des étuis de cuir travaillés à la main. Il y avait des affiches réclamant la mise en accusation du président de la Cour suprême, Earl Warren. Des affiches avec un Nikita Khrouchtchev au rictus sardonique et le message « Niet, camarade Khrouchtchev, c'est nous qui allons vous enterrer ». Il y en avait une dans West Commerce Street qui proclamait « Le Parti communiste américain est pour l'intégration, et vous ?» Celle-ci avait été payée par une organisation qui s'intitulait la Tea Party Society. Par deux fois, sur des vitrines de commerce dont les noms suggéraient des propriétaires juifs, j'ai vu des croix gammées badigeonnées en blanc. Je n'aimais pas Dallas, mais alors pas du tout. Je l'avais détesté dès l'instant où j'étais descendu à l'Adolphus et avais vu le maître hôtel du restaurant empoigner un jeune serveur craintif par le bras et lui aboyer au visage. Pourtant, c'était ici que ma mission m'appelait et c'était ici que je resterais. C'est ce que je pensais alors. Le 22 septembre, j'ai enfin trouvé un appartement qui paraissait vivable. C'était un garage indépendant qui avait été converti en joli duplex. Il était situé dans Blackwell Street, au nord de Dallas. Avantage notable, la climatisation. Inconvénient notable, le propriétaire, Ray Mac Johnson, qui était raciste et qui m'a clairement indiqué que si je prenais l'appartement, j'en serais aussi bien avisé d'éviter de fréquenter Greenville Avenue, toute proche, où pullulaient les bouges à mulâtres et les nègres à cran d'arrêt, comme il disait.
« J'ai rien contre les nègres, » me dit-il. « Non, monsieur. C'est Dieu qui les a maudits et les a abaissés dans leur position, pas moi. Vous le savez bien, n'est-ce pas ?»
J'ai dû rater cette partie de la Bible. Il plissa les yeux pour m'adresser un regard soupçonneux.
« Vous êtes quoi ? Méthodiste ?»«
Oui, » j'ai dit. Ça me semblait plus sûr que de dire que, confessionnellement parlant, j'étais rien du tout.
« Il vous faut rejoindre la voie baptiste de l'Église, fils. La nôtre accueille les nouveaux arrivants. Vous prenez l'appartement, et un de ces dimanches, vous pourrez peut-être nous accompagner, ma femme et moi. »
« Peut-être, » j'ai répété, en me rappelant d'être dans le coma ce dimanche-là, ou même mort.
Mr. Johnson, pendant ce temps, avait repris son exposé des Écritures. « Voyez-vous, Noé s'était enivré ce jour-là sur l'arche, et il était couché sur son lit, nu comme un ver. Deux de ses fils ont détourné les yeux et l'ont recouvert d'un drap, ou peut-être d'une couverture, je ne sais plus. Mais Cham, c'était le nègre de la famille, a regardé son père dans sa nudité et Dieu l'a maudit, lui et toute sa race, les a condamnés à être des coupeurs de bois et des porteurs d'eau. Voilà le passage. Voilà l'origine. Genèse, chapitre 9. Oh, vous pouvez aller y voir, monsieur Humberson.
J'ai fait d'un ton absent, pensant qu'il me fallait trouver un endroit où habiter, que je ne pouvais me permettre de rester à l'Adolphus indéfiniment. Pensant que je pourrais le supporter, qu'un peu de racisme ne me tuerait pas. Pensant que c'était dans l'air du temps et que cet air était probablement le même à peu près partout. Sauf que je n'y croyais pas vraiment. Je vais y réfléchir et je vous donnerai ma réponse dans un jour ou deux, monsieur Johnson.
N'attendez pas trop longtemps, fils. Cet appartement va partir vite. Et qu'à présent, Dieu bénisse votre journée.
Béni ou pas, c'était encore une journée caniculaire, et la chasse à l'appartement donne soif. Après m'être défaussé de la compagnie érudite de Ray MacJohnson, j'ai ressenti le besoin de me taper une bonne bière. J'ai décidé d'aller en prendre une dans Greenville Avenue. Le seul fait que Mr. Johnson ait déconseillé le quartier m'incitait à aller y fourrer mon nez. Il avait raison sur deux points. La rue témoignait d'une certaine intégration raciale et d'une ambiance assez sauvage. Elle était également très vivante. J'ai garé ma voiture et déambulé, savourant la joyeuse atmosphère de fête foraine. Je suis passé devant une bonne vingtaine de bars, quelques cinémas spécialisés dans les reprises de films. « Entrez, fraîcheur assurée à l'intérieur !» disaient les bannières claquant à leur haut vent dans le brûlant vent texan chargé d'odeurs d'hydrocarbures. Et une boîte de striptease devant laquelle un bonimenteur de rue racolait en aboyant.
« Des filles, des filles, des filles comme vous n'en avez jamais vu! Le meilleur spectacle vivant au monde! Et ces dames ne rasent pas les murs, si vous voyez ce que je veux dire !»
Je suis passé aussi devant trois ou quatre boutiques d'encaissement de chèques et de prêts rapides. Il y avait, dressé avec arrogance devant l'une d'elles, la Faith Financial, où la confiance est notre mot d'ordre, un tableau noir destiné à afficher la cote du jour, comme indiqué en titre, avec en bas la mention « Pour le divertissement seulement ». Des hommes en chapeau de paille et bretelles, tenues que seuls des parieurs patentés peuvent arborer, l'entouraient, discutant les chiffres annoncés. Certains avaient des imprimés de paris hippiques à la main. D'autres, les pages sportives du Morning News.
Pour le divertissement seulement.
Ouais, c'est ça, je me suis dit.
Un instant, j'ai pensé à mon bungalow du bord de mer parti en fumée dans la nuit, aux flammes montant à l'assaut des étoiles, attisées par le vent du large. Le divertissement avait ses inconvénients, surtout s'agissant de Paris. Musique et odeur de bière filtraient par les portes ouvertes. J'ai entendu Jerry Lee Lewis chanter « Whole a lot of shaking going on » dans un tripot. Ferlin Husky susurrait « Wings of a Dove » dans un autre. J'étais accosté par quatre prostituées et un vendeur à la sauvette qui proposait des enjoliveurs de roues, des rasoirs à main ornés de strass scintillants et des drapeaux du Lone Star State, l'État à l'étoile solitaire. Frappé des mots « Cherchez pas des crosses au Texas. »
Essayez de traduire ça en latin pour voir.
Cette troublante sensation de déjà-vu revenait en force. Cette impression que les choses allaient de travers ici aussi, comme elles étaient allées de travers auparavant. Ce qui était fou, puisque je n'étais jamais venu dans Greenville Avenue de ma vie. Mais c'était néanmoins indéniable. Une réalité affective plutôt que mentale. Brusquement, j'ai décidé que je ne voulais pas de bière. Et que je ne voulais pas non plus louer le garage converti en duplex de Mr. Johnson, si appréciable qu'y fût l'air conditionné. Je venais de dépasser un trou dans le mur,
nommée la Rose du désert, où le Rock Ola balançait du Muddy Waters en rafale, et je faisais demi-tour pour retourner à l'endroit où j'avais garé ma voiture, quand un type en franchit le seuil en vol plané. Il trébucha en tentant de se rattraper et s'étala sur le trottoir. Un éclat de rire retentit dans la pénombre du bar. Une femme gueula.
« Et reviens pas, espèce de couille molle !»
Ce qui fit redoubler les rires gras des rieurs. Le client éjecté saignait du nez, qu'il avait gravement dévié sur le côté, et aussi d'une balafre qui lui zébrait toute la joue gauche, de la tempe à la mâchoire. Ses yeux écarquillés accusaient le choc. Quand il se cramponna à un lampadaire pour se hisser sur ses pieds, je vis que les pans flottants de sa chemise lui tombaient presque aux genoux. Une fois debout, il promena un regard noir et vide tout autour de lui. J'ai dû faire un ou deux pas vers lui, mais avant que je l'atteigne, l'une des femmes qui m'avait accosté s'approcha, oscillant sur ses talons aiguilles. Sauf que ça n'était pas une femme. Pas exactement. Avec ses grands yeux sombres et sa peau couleur café fraîche et lisse, elle ne devait pas avoir plus de 16 ans. Elle souriait, mais sans aucune méchanceté. Et quand l'homme au visage ensanglanté tituba, elle le saisit par le bras.
« Tout doux, mon cœur !» lui dit-elle. « Il faut que tu t'assoies avant de... »
Il souleva les pans de sa chemise. La crosse de nacre d'un revolver, beaucoup plus petit que celui que j'avais acheté chez Macken, guère plus qu'un jouet vraiment, apparut contre la graisse blanche qui débordait de la taille de son pantalon en gabardine. Sa braguette était à demi baissée et j'ai aperçu son caleçon imprimé de voiture de course rouge. Je m'en souviens clairement. Il a ôté le revolver de sa ceinture, pressé le canon contre le ventre de la pute et appuyé sur la gâchette. On a entendu un stupide petit pop, le bruit d'un pétard qui explose dans une boîte de conserve, rien de plus. La fille a poussé un cri et s'est assise sur le trottoir en se tenant le ventre avec les mains.
« Tu m'as foutu un pruneau !»
C'était moins une expression de souffrance que d'indignation, mais le sang avait commencé à couler entre ses doigts.
« Tu m'as foutu un pruneau, bougre d'animal ! Pourquoi tu m'as foutu un pruneau ?»
Il l'ignora, rouvrit la porte de la Rose du désert à la volée. J'étais toujours à l'endroit où je me trouvais quand il avait tiré sur la jolie petite pute. D'une part, parce que j'étais pétrifié par le choc. Mais surtout parce que tout cela n'avait pris que quelques secondes. Plus qu'il n'en faudrait à Oswald pour assassiner le président des États-Unis, peut-être. Mais guère.
« C'est ça que tu veux, Linda ! »
gueula-t-il.
« Si c'est ça que tu veux, tu vas l'avoir !»
Il s'est fourré le canon du revolver dans l'oreille et a pressé la détente.